Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Christian Couaille, il est président du conseil départemental des Côtes d'Armor et il a accepté notre invitation, je vous en remercie, à venir parler de politique et de budget ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je commence par les mots qui fâchent tout de suite, le budget. Il en est beaucoup question en ce moment à l'Assemblée nationale, avec un temps très court pour essayer d'avoir un budget avant la fin de l'année, avant le 31 décembre concrètement. On sent que c'est pas forcément la voie qui se présente aux députés avec beaucoup d'amendements et surtout beaucoup d'affrontements autour de ce que sera ce budget, avec un corollaire, les incidences de ce budget sur les collectivités territoriales, sur les collectivités locales et les conseils départementaux. Vous avez déjà alerté plusieurs fois, Christian Couaille, sur la prudence qu'il faut avoir à demander aux départements de couper dans leur budget. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours aussi, allez, j'allais dire, prudent ou plus pessimiste ?
La situation des départements, malgré toutes nos actions, ne s'est pas améliorée, loin de là. Et ce qui se prépare est une désolation. La situation ne s'est pas améliorée parce que j'avais eu l'occasion à plusieurs reprises déjà d'alerter sur la situation des départements liée à leurs ressources par rapport à leurs dépenses. Pour parler simple, jusqu'à 2021, nous avions la possibilité de voter des taux pour le foncier, par exemple, ce qui nous procurait des ressources certaines. Depuis 2021, la taxe foncière a été remplacée par de la TVA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos recettes sont en partie liées à l'activité économique. Quand l'activité économique va bien, la TVA rentre. Quand elle va moins bien, il y a moins de TVA. Donc ça veut dire qu'on a moins de recettes à se partager.
Alors justement, il y a une activité économique en ralentissement aujourd'hui, en France, on le voit, plus largement en Europe, avec une attente. Là, on est dans l'attente de ce fameux budget, dans l'attente peut-être d'une autre dissolution, allons savoir. C'est inquiétant d'être obligé de naviguer à vue comme ça.
Oui, alors je voulais juste terminer sur le point précédent de vous expliquer qu'en fait les difficultés des départements sont liées au fait que nos recettes dépendent de l'activité économique, la TVA, mais aussi de la conjoncture immobilière. Et vous savez que lors des deux dernières années, donc les ventes immobilières ont chuté, et pour le département des Côtes d'Armor, ça se traduit par une perte de 35 millions de recettes. Donc évidemment, en face, nous avons des dépenses parce que nous avons des compétences obligatoires que nous exerçons. Et ces compétences obligatoires sont liées aux solidarités humaines et donc 63% de notre budget de fonctionnement, ce sont des dépenses liées aux solidarités humaines, c'est-à-dire l'APA, la prestation de compensation du handicap et le RSA. Et donc, la deuxième difficulté que nous avons, c'est que lorsque ces compétences-là ont été transférées au département, elles étaient compensées à l'euro près. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, puisqu'elles ne sont compensées qu'à hauteur de 45%. Ça veut dire que 55% de ces dépenses sont à la charge des départements. Et aujourd'hui, l'État nous doit chaque année 85 millions d'euros au titre de la compensation de ces dépenses. Premier point. Deuxième point, donc des recettes aléatoires. Et troisième point, ce sont les décisions du gouvernement qui viennent impacter nos finances dans le cadre du budget. Et donc, ce qui se prépare sur le budget, puisque c'est la question qui est posée, c'est aujourd'hui de dire, et c'est reconnu par les directions générales des collectivités publiques, que les départements sont en difficulté. Il y avait 15 départements en difficulté l'année dernière, il y en a 30 cette année. Et ce qui se prépare, ce qui a été fait sur le précédent de budget, c'était de demander aux départements une contribution de 220 millions d'euros. Aujourd'hui, la situation est la suivante. L'épargne nette des départements, qui était de 8,7 milliards en 2022, devrait représenter 150 millions d'euros à fin 2025. C'est vous dire la situation critique dans laquelle se trouvent de nombreux départements, puisqu'on estime qu'en fin 2025, 55 à 60 départements seraient en difficulté. Eh bien, tenez-vous bien, vous ne me croirez peut-être pas quand je vais vous dire ça, mais aujourd'hui, ce qui est prévu dans le cadre du budget qui est en discussion, c'est une contribution des départements à hauteur, non pas de 220 millions d'euros comme l'année dernière, mais de 280 millions d'euros, alors que la situation financière des départements s'est détériorée. C'est juste incroyable.
Je vous sens très, très en colère, Christian Couaille.
Je suis en colère.
On va revenir, effectivement, j'avais un petit peu anticipé la question autour de la TVA et des difficultés à faire rentrer de l'argent alors que la situation des entreprises, la situation économique plus largement est difficile. Mais je vous pose la question directement. Les Côtes d'Armor sont en difficulté aujourd'hui?
Les Côtes d'Armor sont dans une situation médiane. Hein, donc ça veut dire que jusqu'à présent, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour éviter de se retrouver en difficulté, mais cela a ses limites, évidemment. Et évidemment que toute dépense, nous la regardons de près, hein, pour éviter de se retrouver en difficulté. Mais nous avons été amenés à prendre un certain nombre de mesures difficiles. Il faut quand même le souligner. Hein. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a annoncé l'année dernière la suppression de 60 emplois. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons dû prendre un certain nombre de dispositions pour baisser nos soutiens dans certains secteurs. Évidemment, on l'a fait. On l'a fait en concertation avec tous les partenaires concernés. Mais c'est une situation qui n'est pas durable. Et moi, ce qui me désole, si vous voulez, c'est de voir aujourd'hui que nous avons une ministre dans le gouvernement qui s'appelle Françoise Gatel, qui est en charge de la ruralité et de l'aménagement du territoire. C'est une ministre bretonne. Et Madame Gatel, qui devrait nous défendre, en fait, propose dans le projet de loi de finances de nous enfoncer un peu plus. Ça, c'est juste inacceptable.
Il y a une forme d'incompréhension, si je vous écoute, si je lis un peu entre les lignes, entre le terrain que vous représentez en tant que président de conseil départemental et du conseil départemental des Côtes d'Armor en particulier, et finalement ce qui se décide à Paris, c'est-à-dire, même si on a des ministres issus des territoires, là encore, mais ce qui se décide à Paris, comment vous expliquez ce décalage pour rester poli?
Je vais rester poli, mais ce qui se passe à Paris est en total décalage, comme vous le dites, avec ce qui se passe sur le terrain. Quand vous regardez les médias, quand vous écoutez nos concitoyens, ils sont vraiment écœurés des politiques d'une manière générale, parce que c'est le chaos au niveau national, c'est la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale. Heureusement que nous, sur le terrain, nous avons une autre vision des choses. Et nous, élus départementaux, nous sommes au plus près des Costa-Ricains et des Costa-Ricaines pour au quotidien accompagner notamment les personnes les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, qui vous parle de la protection de l'enfance? Aujourd'hui, qui vous parle de l'autonomie? Qui vous parle des 700 000 personnes qui vont être d'ici 2050 en perte d'autonomie et qu'il va bien falloir accompagner? Personne ne parle de ces sujets-là. Aujourd'hui, on passe son temps à se battre à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps-là, heureusement que les élus locaux, les élus départementaux et régionaux sont là pour faire tourner les boutiques, si je peux utiliser cette expression.
Avec un fossé qui se creuse entre les Français et le monde politique, quel qu'il soit du reste, est-ce que vous avez senti ce rejet, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, au niveau local et au niveau des élus locaux?
Alors, je considère que la situation au niveau local est très différente. Hein, parce que, vous savez, moi je suis élu local. Quand je suis dans ma commune, les gens me connaissent. Ils savent me trouver quand ils ont quelque chose à dire. Et moi, je remarque quand même que les habitants, ils respectent les élus locaux. Ils ont beaucoup, ils voient qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Et il faut dire aussi que nous sommes des quasi-bénévoles. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, je trouve que la situation est... Et en plus, au niveau communal, on essaye de mettre ensemble toutes les bonnes volontés. Mmh. Donc, c'est transpartisan en plus.
Justement, sur les économies à faire, on entend beaucoup de Françaises, beaucoup de Bretons, de Costa-Armoricains. Ils nous interpellent aussi, nous, les médias, pour dire, voilà, tenez, vous avez Christian Couaille demain matin, posez-lui la question. Alors, je pose la question, c'est une auditrice qui m'a sollicité très tôt ce matin. Alors, je me fais le porte-parole de cette auditrice de la région de Lannion qui dit, mais alors, pourquoi on ne diminue pas le train de vie de l'État? Pourquoi on ne diminue pas les émoluments des ministres, des députés alors qu'on voit justement sur le terrain que les élus, eux, et c'est ce que vous soulignez, Christian Couaille, ils travaillent quasi bénévolement, on le voit dans les petites communes en particulier.
Oui, alors justement, on met tout le monde dans le même sac, si je puis dire, mais la situation, elle est quand même très différente. Hein. Quand vous êtes dans une petite commune, l'indemnité du maire de ma commune, c'est 800 euros. C'est sûr qu'elle ne va pas dépenser 4000 euros par mois. Pour acheter des fringues. Non, mais il faut dire les choses à un moment donné, quoi. Et je veux dire que les excès de quelques-uns entachent la réputation de tous. Et ça, c'est juste pas acceptable. Et donc, il faut savoir différencier les choses. D'autre part, critiquer les indemnités des élus, je tiens à dire quand même que nous avons des élections municipales dans très peu de temps. Mmh. Et ce que j'avais observé le mandat précédent, c'est qu'il y avait 45% des élus locaux qui mettaient fin à leur mandat. Mmh. Hein? Et ils mettaient fin à leur mandat pour diverses raisons. Hein? Parce qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas très facile d'être élu local. Mais aussi parce que quand on est élu local, ça veut dire qu'on consacre une partie de sa vie donc à s'occuper des autres. Mais les émoluments qui vont avec sont quand même peu représentatifs du temps qui est consacré. Donc moi, je trouve... Il ne faut pas tomber dans le populisme. Mmh. Je trouve que c'est tout à fait normal que les élus locaux puissent avoir des indemnités décentes, parce que je me souviens quand même de 2015, où nous avons été mis en minorité. J'ai un certain nombre de mes collègues qui se sont retrouvés à l'agence de l'emploi. Mmh. Parce que vous quittez un emploi, vous reprenez quelques années plus tard, le temps a changé, on ne vous attend pas pendant ce temps-là. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas tomber dans ce populisme. On a la démocratie que l'on mérite. Alors, les excès doivent être condamnés, évidemment.
Alors, vous dites, on a la démocratie que l'on mérite. On voit aujourd'hui une polarisation de la vie politique. Alors, on la voit aussi, on la constate ici aussi sur le terrain en Bretagne et même dans les Côtes d'Armor, avec une montée importante de Rassemblement National. Ça nous amène un petit peu au municipal aussi. Et une montée de LFI, ce qui correspond un peu ou prou à ce qui se passe au niveau national. Est-ce que c'est inquiétant, justement, cette polarisation de la vie politique, même si, évidemment, c'est la démocratie, mais vers les extrêmes?
Je veux dire, moi, quand je discute avec la population locale, vous savez, les gens n'ont pas forcément toujours des discours très rationnels. Et parfois, ils se disent, on a essayé ça, on a essayé ceci, ça marche pas, donc on va essayer autre chose. Et donc, ils espèrent toujours trouver des solutions à leurs problèmes, puisqu'ils se disent que ceux qui sont là ne font pas les efforts nécessaires pour résoudre leurs difficultés. Donc c'est dommageable, on n'y peut rien. Maintenant, il faut essayer justement de lutter contre ces extrémismes. Et la meilleure façon de lutter contre les extrémismes, c'est de répondre, je le disais en introduction, c'est de répondre aux préoccupations et aux attentes de la population.
Alors je disais tout à l'heure, vous étiez en colère. On sent ce fossé qui se creuse entre les élus locaux et le gouvernement, pour faire simple. Si demain il y avait un budget qui était voté par ordonnance, par exemple, on imagine bien que ce sera la feuille de route du gouvernement avec un budget qui finalement ne tiendra pas compte des amendements qui ont pu être votés ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Ça va avoir des conséquences plus importantes. Vous parliez de cette augmentation de la contribution des départements à l'effort national. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'un département, alors pas forcément les Côtes d'Armor, mais un département dise, voilà, moi je dépose le bilan. Alors, je mets les guillemets qui s'imposent, mais est-ce qu'on peut en arriver là?
Moi, j'enlève les guillemets, je vous réponds oui. Il y a un département aujourd'hui qui a présenté au compte administratif un résultat négatif de 90 millions d'euros. Donc il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Parce que des départements en situation difficile et très difficile, il y en a beaucoup et de plus en plus. Et donc, l'artifice qui est mis en place dans le budget qui se prépare, c'est de dire, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la taxe foncière avait été remplacée par de la TVA, eh bien, que prépare le gouvernement pour 2026 ? Eh bien, il veut ponctionner 265 millions d'euros sur la TVA due au département pour venir alimenter un fonds de sauvegarde destiné à aider les départements les plus en difficulté. Et le problème, il est simple, c'est que quand ils ont fait tourner leur mécanique, ils se sont rendus compte qu'il y avait 55 à 60 départements qui devraient abonder à ce fonds. Donc, pour éviter que les départements aient au titre des aides gouvernementales des sommes ridicules, ben ils revoient les critères pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une quinzaine de départements qui puissent abonder à ce fonds. Donc en fait, ce sont les départements qui sont ponctionnés pour venir alimenter un fonds. Ce n'est pas le gouvernement qui le fait. Donc juste délirant.
Voilà, c'est une sorte d'auto-aide, je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Surtout après nous avoir dit que remplacer la taxe foncière par la TVA, c'était tout bénéfique pour les départements, parce que la TVA était beaucoup plus dynamique que la taxe foncière. Et bien maintenant, on vient raboter la TVA, donc vous voyez, ce sont encore des difficultés supplémentaires pour nous.
Avec un monde économique, alors je reviens à ma question du début, un monde économique qui peut-être pas en berne, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, il y a un fort ralentissement de l'activité économique pour bien des raisons, l'instabilité politique, l'attente aussi peut-être des échéances électorales, à savoir les municipales et très vite la présidentielle. Est-ce que là aussi c'est un sujet d'inquiétude quand le monde économique ralentit pour un département tel que les Côtes d'Armor par exemple ?
Alors, oui, ça peut être un signe d'inquiétude. Maintenant, le département des Côtes d'Armor a quand même un certain nombre d'atouts. Et l'atout principal du département des Côtes d'Armor, c'est que d'abord, c'est un département très dynamique. Hein, on le voit dans des secteurs comme l'Agnon, avec la recherche, par exemple. On le voit sur le littoral, avec la pêche, hein, qui représente une activité importante, mais on le voit surtout avec l'agriculture et l'agroalimentaire qui fait de notre département le premier producteur d'œufs, le deuxième producteur de porc. On le voit aussi sur la zone légumière, hein, puisque nous sommes le premier producteur de légumes en France. Donc nous avons un certain nombre d'atouts et on ne se contente pas de produire, on transforme. Mmh. Vous avez un certain nombre quand même d'industries agroalimentaires qui sont très dynamiques, de pêcherie, de transformation des produits. Et grâce à cette valeur ajoutée, eh bien, vous avez des secteurs du département où le taux de chômage est particulièrement bas. Et d'une manière générale, le taux de chômage en Côte d'Armor est inférieur au taux de chômage breton et au taux de chômage national. Donc il faut aussi arrêter d'être pessimiste et voir que dans notre département, nous avons des atouts pour réussir. Et j'ai oublié de parler du tourisme, qui est quand même un des fleurons de notre département.
Voilà, alors il ne s'agit pas évidemment de noircir le tableau, il s'agit d'être lucide sur une situation qui est inquiétante néanmoins. Justement, on le sent aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives aussi, j'allais dire populaires, des citoyens qui essaient de faire tourner l'entraide, qui essaient aussi de trouver des solutions. On a l'impression que les Côtes d'Armor, c'est aussi un peu un vivier à ce niveau-là.
Alors, vous avez raison de parler de ça, et quand vous parlez de ça, vous parlez aussi du secteur associatif. Hein. Vous avez plus de 10 000 associations dans les Côtes d'Armor. La Bretagne, d'une manière générale, est la région sur laquelle il y a le plus d'associations. Et les Côtes d'Armor se distingue par un nombre d'associations très importants qui emploient du personnel, qui ont des activités et qui permettent d'intervenir dans des espaces où le secteur marchand n'intervient pas. Donc c'est très important que le dynamisme des associations puisse être souligné. La principale association du département a 1000 salariés, il ne faut pas l'oublier.
Avec une inquiétude là aussi sur le secteur associatif qui pâtit aussi de ces économies budgétaires. Souvent, les associations vivent de subventions qui sont départementales parfois. Est-ce que là aussi, il ne faut pas trop tendre la corde pour pas que ça casse ?
Alors, je vais parler égoïstement du département puisque c'est pour cela que vous m'avez invité, pour dire que dans les difficultés, nous avons quand même pris deux décisions importantes au niveau du département. Et la première, justement, c'est en direction du secteur associatif, puisque nous avons préservé les emplois associatifs locaux et départementaux. On a dit, on a des difficultés, on va faire des arbitrages, mais on ne touche pas aux emplois associatifs locaux et départementaux. Ça représente 300 emplois dans le département, donc c'est pas rien. La deuxième chose qu'on a décidé, c'est en direction des communes, hein, puisque les communes et les départements sont très liés, on a décidé de maintenir les contrats de territoire que l'on avait mis en place donc en 2022 en direction des communes. On vient aider les communes dans leurs projets d'investissement. Ce n'est pas le cas de tous les départements. Il y a des départements qui ont suspendu les aides aux communes. Et nous sommes le seul département de France à avoir des emplois associatifs locaux et départementaux. Voilà.
Toujours autour du budget, Christian, quoi, il y a le SDIS. Alors le SDIS, c'est les pompiers, hein, pour faire simple. Le département a voté un fonds de concours pour permettre le renouvellement du parc roulant, à savoir les véhicules des pompiers. Alors que là aussi, le contexte budgétaire est tendu, on l'aura compris. Là aussi, il fallait donner un signal fort pour assurer les secours ici en Bretagne. Et en Côte d'Armor plus particulièrement.
Oui, je réponds oui. Et pourquoi ? Ben parce que, vous savez, dans le secteur de la santé, il y a quand même d'énormes difficultés. Vous voyez ce qui se passe au niveau des urgences avec des régulations. Hein, et ceci fait que nos sapeurs-pompiers, quand ils transportent des usagers, se voient parfois contraints de faire des déplacements beaucoup plus longs. Quelqu'un que vous emmenez à Guingamp ou à Lannion, on vous dit, bah non, c'est à Saint-Brieuc pour finir. Et le problème était surtout criant dans le sud-ouest du département, dans la zone au niveau de Rostronin, où lorsque les usagers étaient transportés à Carhaix, très souvent ils se retrouvaient à Pontivy, à Lorient ou à Brest. Donc tout ça, quand vous avez dit que le corps des sapeurs-pompiers est constitué à 80% de sapeurs-pompiers volontaires, fait que c'est du temps de présence en plus et des déplacements en plus. Et qui dit déplacement en plus, c'est une usure du matériel qui transporte évidemment, des véhicules qui transportent évidemment les usagers. Donc nous avons fait ce constat que 30% de notre parc de véhicules avait dépassé la valeur technique d'amortissement. Et on s'est fait la réflexion, on a travaillé toute l'année 2024 sur ce sujet-là, et à l'unanimité, on a décidé au niveau du conseil d'administration du SDIS de mettre en place ce fonds de concours et de solliciter chaque commune du département à hauteur de 1,50€ par habitant sur les années 2025 et 2026. Le produit espéré de la mise en place de ce fonds de concours, c'était 1 million d'euros pour 2025, 1 million d'euros pour 2026. Et nous avons annoncé clairement que cet argent serait destiné à l'acquisition de 9 ambulances chaque année, parce que ça coûte très cher, les ambulances, pour permettre à nos sapeurs-pompiers d'avoir du matériel performant. Et c'est ce que nous avons mis en place. Et le succès a été total, puisque j'ai présenté au conseil d'administration du 13 octobre les résultats, et ce sont 95% des communes qui ont répondu favorablement, c'est-à-dire 327 communes sur 344. C'est formidable.
C'est quand même
un geste de solidarité que je trouve remarquable dans ce département des Côtes-d'Armor. Et je tiens à les remercier, toutes les communes.
On entend beaucoup le mot solidarité, Christian Couaille. Vous aimeriez qu'il y ait la même solidarité, là encore je vais un peu aller tourner le couteau dans la plaie, mais qu'il y ait cette même solidarité de la part du gouvernement vis-à-vis des collectivités. Vous trouvez que il n'y a pas cette notion finalement?
Si vous voulez, ce qu'on observe, c'est une vision à court terme. C'est-à-dire que là, il y a un budget à boucler. Donc, Bercy a travaillé sur un certain nombre de mesures. Comme les gouvernements ne durent pas très longtemps, celui qui arrive prend le travail qui est préparé par le prédécesseur. Et donc, on n'a aucune visibilité à court terme. Tout le monde reconnaît que dans la strate des collectivités, les départements est la strate la plus touchée et que c'est la strate qu'il faut préserver. Mais pour autant, quand arrivent les mesures, on ne tient pas compte de cela. Donc, on ne fait qu'enfoncer les difficultés pour les départements.
Il reste une poignée de secondes. J'avais envie de vous entendre aussi sur le fait d'une possible dissolution. Ça vous inquiète si demain le gouvernement était à nouveau, s'il y avait dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, ça rajouterait de la contrainte, du chaos?
Alors moi je veux être terminé par une note d'optimisme. Moi je suis président du département, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'avoir des interlocuteurs pour défendre les intérêts des Costa-Ricains, des Costa-Ricaines. Donc, nous sommes à 16 mois maintenant de l'élection présidentielle. Je ne vois pas, franchement, ce que les députés auraient à gagner à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, j'ose espérer que ça ne se fera pas. Et que, enfin, pendant 15 ou 16 mois, nous puissions travailler en paix et essayer de préserver les intérêts de tous et d'agir pour encore une meilleure action sur notre territoire.
Voilà, il faut garder ce palier de respiration.
Voilà.
Quel sera le grand dossier? C'est ma dernière question que vous allez traiter prochainement au département.
On a beaucoup de dossiers à traiter, vous en doutez. Donc c'est la préparation budgétaire, évidemment, puisque ça va de soi. Mais il y a d'autres dossiers qui nous attendent, comme le devenir de l'aéroport, par exemple, mais on a aussi un dossier très important, peut-être le plus important dont on parle très peu, c'est la mise en place de la SEM Bretagne Armor Pêche, qui regroupe donc tous les ports de pêche costa-ricains et qui va permettre d'avoir une vision globale de la pêche en Bretagne, puisque nous avons la région qui fait partie de la SEM, et j'ajouterais juste le port de maintenance de Saint-Quay, qui va se faire et qui va permettre de créer 80 emplois dans les Côtes d'Armor dans les 2-3 ans qui viennent.
Voilà, donc notre optimiste. Oui, s'il en est. Merci infiniment, Christian Couaille, d'avoir été avec nous ce matin au micro de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental des Côtes d'Armor, président du SDIS aussi.
Président du SDIS.
Voilà, donc, voilà des services des pompiers, je le dis, parce que c'est encore un acronyme, mais voilà, c'est rentré dans les mœurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.